bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour à tous et bienvenue dans la bande originale sur France Inter avec autour de la table Marina Rollman.
Bonjour Leïla Cadon.
Albert Algou.
Bonjour.
Daniel Morin.
Oui, oui.
Tout à l'heure, c'est Tanguy Pastureau qui nous retrouvera à ce
peut-être
micro et notre invité aujourd'hui est Béatrice Dalle.
Alors bonjour, si elle vient, si elle vient. Elle est dans les couloirs.
Béatrice Dalle est pas loin, elle va nous rejoindre, ça me laisse le temps de vous parler un petit peu du programme de cette émission. Elle vient nous présenter une lecture musicale Pasolini qu'on aura la chance de voir à Paris à la Gaîté Lyrique le 4 juillet en ouverture d'un festival queer, le festival Loud and Proud dont France Inter est partenaire. Un texte très très fort. Ouais, on a déjà
c'est
commencé. Ouais, ouais, ouais.
Mais à quelle heure vous commencez normalement?
Mais on tourne demain, moi j'arrive en retard si tu veux comme
bon,
ça on est
jamais change. De la vie,
on n'a pas le droit.
Non, jamais d'avis, c'est pas ton genre. Bonjour, pardon, je suis désolé. Mais l'émission a déjà commencé, j'ai même pas dit bonjour et au revoir Alex de Meyer.
Il a dit qu'il voulait pas te parler.
Ah, d'accord.
On le retrouve à midi, t'inquiète pas. Il sera
ah, ok, d'accord.
On dit qu'il venait pas.
On s'occupe de tout, on s'occupe de tout.
Donc tu parlais de Loud and
ouais,
Proud.
Loud and Proud, ce festival queer qui a lieu à la Gaîté Lyrique. C'est la troisième édition. À chaque fois, la programmation est étonnante parce qu'il y a des performances, mais il y a aussi des concerts. Et là, on a affaire à une lecture musicale des textes de Pasolini avec un groupe de post-punk zéro qui sera derrière Virginie Despentes et Béatrice Dalle pour
oui, t'as illustrer. Post, ouais. T'as dit post-punk zéro, zéro c'est le nom du groupe.
Zéro, ouais, ouais, c'est ça. Non, ouais, ouais.
Post-punk zéro,
ça, c'est un classement.
Ouais, d'accord. D'accord. Non, c'est le groupe zéro qui est un groupe post-punk.
Alors,
voilà.
En attendant que Béatrice nous rejoigne, parce que c'est la loi des séries, voici les questions concernant Béatrice pour voir si vous avez bien bossé votre sujet avant qu'elle n'arrive. Béatrice Dalle a décidé d'écrire un livre de poésie, mais sur quel support?
Sur un corps,
choix.
Sur la peau.
Sur des peaux.
Mais direct.
Ouais, wow, c'est beau.
Sur le corps, exactement. Ouais. Elle s'est fait tatouer sur l'avant-bras un texte de Pasolini, justement. « Mon indépendance, qui est ma force, induit ma solitude, qui est ma faiblesse. Je vais continuer, a-t-elle dit, de faire graver des textes comme ça sur ma peau. J'ai essayé de faire de mon corps un livre de poésie.
Ouais. »
Et c'est à ce moment-là que Béatrice Dalle
apparaît. Ah,
non, c'est là, Béatrice. Ah, pardon. Non, mais comme nous sommes à l'antenne déjà depuis un certain temps, nous étions en train d'évoquer, Béatrice, le fait que vous ayez décidé de faire de votre corps
un
support de poésie.
Ouais,
et d'écrire des phrases de justement, de Pasolini.
De Pasolini, de Genet.
Ah, pas que de Pasolini.
Non, non, non.
D'accord.
De Miro, quoi.
Et alors, comment est venue l'idée? Le tatouage, on le sait, je crois que vous en avez toujours eu, enfin, j'ai l'impression,
ouais.
Ça a toujours été le cas. Mais d'écrire des textes. Et surtout après le choix des textes, ça c'est encore une autre question.
Pour moi, un tatouage, ce n'est pas juste un objet de décoration. Tu vois, et puis c'est tellement la mode en ce moment que tout le monde en porte. Ouais. Moi, ça a toujours une signification. Et comme je suis dingue de poésie, je me dis, c'est vraiment l'endroit pour le faire sur le corps. Puis je me dis, si j'ai un amoureux qui se fait chier, il y aura de la lecture.
Quel film
la bonne.
Quel film de Tarantino a-t-elle refusé de jouer?
Pulp Fiction.
Exactement.
Non, j'ai pas refusé, attention.
Ah, bah, Pulp Fiction.
C'est que je parle pas anglais. Et du coup, on m'avait proposé le rôle. Mais je parle pas anglais, je suis pas...
Je croyais que vous étiez prise ailleurs.
Non.
Au moment du tournage,
non, c'est pas ça,
c'était l'anglais. D'accord.
Bien sûr qu'on peut apprendre des textes par cœur, je l'avais fait avec Ferrara, mais je ressens rien en anglais. C'est pas du tout émotionnel pour moi, quoi.
Donc tous les blockbusters américains qu'on aurait pu vous proposer,
On m'en a proposé plusieurs.
Ah, carrément.
Ouais. Mais je m'en fous, j'aime pas le cinéma américain.
Même le côté, bande dessinée, le côté un peu justement, j'allais dire les effets spéciaux qu'on peut imaginer, les Jurassic Park, les trucs un peu incroyables.
Ah, c'est pas du tout ma came, ça.
Même pour s'amuser.
Non, par contre, je regrette de pas parler anglais pour le cinéma anglais. Parce que je suis folle de metteurs en scène et d'acteurs anglais, par contre.
Et chanter en anglais, en revanche, est-ce que là, même chose, il y a un frein?
Ah mais moi je chante pas du tout donc en anglais, en breton.
C'est vrai.
Et pourtant et on va en parler sur scène, il y a un côté très très rock dans l'interprétation du texte avec Virginie Despentes. Et vous êtes sur scène comme une chanteuse, justement, ben, comme une chanteuse près de son micro pour qu'on puisse vous entendre à la radio. Non, lui, il se détache pas.
Ah, d'accord.
Ah, bah oui, désolé. Donc c'est y a un comportement rock quand on est sur scène comme ça avec la musique derrière et les lectures de Pasolini, c'est du slam.
Parce que c'est toute ma vie quoi. Moi ma vie c'est même pas le cinéma, c'est la musique. J'écoute de la musique chez moi non-stop 24/24 quoi. Et si je partage la vie de quelqu'un, que ce soit d'un amoureux, d'un ami, si on n'écoute pas la même musique, si on aime, c'est pas possible.
Ah, vous pouvez vous fâcher d'amitié ou d'amour?
D'amour, je musicaux. Pourrais pas tomber amoureuse d'un homme qui est...
Qui écoute plein... qui?
Qu'est-ce qui est rédhibitoire?
Moi, j'aime le punk, j'aime le rap, j'aime la musique classique, j'aime le rock, voilà.
Bon, c'est large.
Ça laisse pas mal de possibilités. Attention, après, je suis pointu dans... Ouais, dans le choix des groupes, ouais.
Après, il y a peut-être une question d'humeur aussi. C'est-à-dire, à quel moment on écoute quel genre de musique? C'est pas la même si on est triste, si on a envie, au contraire, de déconner, de se marrer.
Absolument.
Ou de danser.
C'est
pas le même état.
Je trouve que c'est l'art qui est le plus instinctif. Il n'y a pas besoin presque d'initiation, quoi. Comme tu viens de dire, t'écoutes de la musique triste, t'es triste. Sauf que j'écoute pas n'importe quelle musique triste.
On en parlera tout à l'heure avec la bande originale, justement, de votre vie. Quelle viande, Béatrice Dalle, a-t-elle eu l'occasion de goûter un
kangourou.
Jour?
Kangourou.
Non.
Le serpent.
Les caribous.
Non.
Humaine. Le... Pardon? Humaine.
Exactement. De la viande humaine. Ça va calmer.
Wow, ça va, faut pas en faire. Tu vois, le mec, il est
mort. Je sais pas.
Il va pas se plaindre non plus.
Non, mais ça s'appelle.
Elle était morte, c'est pas une performance.
Ça s'appelle du cannibalisme.
Mais tu sais, après.
Est-ce que vous saviez que c'était de la viande humaine quand vous l'avez mangée?
Oui, bien sûr. Bah ouais, on est allé la chercher quand même.
Ça se trouve où?
Ça se trouve quand t'as des copains étudiants en médecine. Tu peux récupérer des trucs incroyables.
Non.
Et c'était quelle partie?
C'était pas super.
C'est le morceau du boucher.
Bien.
Mais c'était une oreille, c'était pas spectaculaire.
Ah. C'était un apéro, quoi.
Et vous avez vu ce film de Julia Ducournau?
C'était
grave.
Mike Tyson, surtout.
Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler.
Vraiment,
ouais.
Parce que là, il y a des scènes de cannibalisme. Et quand vous parlez tout d'un coup de la morgue, j'ai des visions. C'est un film très, très beau visuellement et l'histoire est hyper forte.
Et puis, il y a eu des pays... Et c'est pas si ancien que ça, où les gens croyaient tellement que
qui se mangeaient.
Ils mangeaient de la chair humaine, quoi.
Non, oui, puis il y a
des faits divers aussi.
Des accidents, ouais.
Non, des accidents d'avion où ils avaient été obligés de... Elle était en train de monter le son d'Albert, elle
qui commençait à me rendre sourd.
Qui commençait à saigner des oreilles, en fait.
Merci,
on comprenait
Béatrice.
Pas pourquoi. Béatrice, est-ce que l'idée de dire, je vais goûter de la viande humaine en allant à la morgue, c'est plus dans l'idée de tout expérimenter, que dans l'idée de provoquer ou de choquer?
Non, alors c'est ni l'un ni l'autre, c'est que on faisait un business avec ça, parce qu'on n'avait pas de fric, ma copine et moi. Donc comme il y a un marché pour vendre ce genre de choses, et un soir on était tellement défoncés...
Il y a un marché pour vendre de la viande humaine.
Ouais.
D'accord.
Ouais. Mais souvent c'est plus des gens qui veulent faire...
Tenter une expérience.
Je sais pas si on peut dire une blague, pour faire flipper les gens, quoi.
D'accord.
Ouais, j'avais pas un client non plus qui venait chercher un truc.
Ces petits 300 grammes chaque semaine pour faire une blanquette.
D'accord.
J'ai de la rillette.
Qu'est-ce que Béatrice Dalle recherche avant tout pour passer de bonnes vacances?
J'aime pas les vacances.
L'ombre.
Pas loin.
Le froid.
Le silence. La pluie,
exactement.
Solitude.
Non, la pluie. C'est le truc qui vous plaît, c'est vous balader sous la pluie.
Non, mais moi j'ai horreur du soleil. J'ai horreur de faire le lézard sur une plage.
Donc c'est quoi? C'est partir en Irlande et marcher?
Mais moi j'aime beaucoup les pays de l'Est, donc en Ukraine ou des endroits comme ça,
Enfin, il y a des endroits en Ukraine où il fait chaud aussi, donc moi ma question c'était plus sur la fraîcheur
Je citais l'Ukraine, c'est parce que moi tu me mets aux Seychelles, je préfère, si on disait torture aux Seychelles, je préfère torture. Et l'Ukraine, l'Ukraine ou d'autres pays, je suis pas du tout admiratrice du régime politique, j'aurais pu dire la Russie aussi, juste quand les régimes politiques sont très très durs, les rapports humains sont très intenses aussi, quoi. Forcément, parce que nous, on est quand même très confortables. Je sais bien qu'il y a plein de gens qui sont pas contents en ce moment, et à juste titre, mais par rapport à l'inconfort de certains pays, c'est encore pire, quoi. Et forcément...
Ça resserre les liens quand les choses vont mal.
Pardon.
Ça resserre les liens
d'un peuple. Oui, absolument. Et les priorités sont pas les mêmes. Notre priorité à Paris, c'est de pas oublier son iPhone, quoi. Tu vois, des amoureux dans les restos, ils sont toujours sur leur iPhone. Je dis, t'as pas un truc à dire à ta mère.
Bah, ils sont avec leur mari et leur femme. Hein.
qu'est-ce que Béatrice a, enfin Béatrice du moins, a une cuisine, ça n'y a rien de surprenant, mais dans cette cuisine...
Il n'y a rien.
Il n'y a pas de casserole.
C'est ça, exactement. Il n'y a rien.
Je ne sais rien faire, donc je m'en fous.
Ouais. Mais pourquoi garder la cuisine?
Mais j'ai pas gardé la cuisine, il y a une pièce a priori devait s'appeler la cuisine.
Et est-ce que vous avez transformé les plats que vous avez mis, quoi,
Il n'y en a pas.
Une penderie à la place du frigo,
enfin. Non, il n'y en a pas. J'en avais acheté en arrivant parce qu'on aurait dit des platines de DJ. Mais elles ont jamais été branchées.
Mais il y a un congélo quand même pour la viande.
Il y a un frigo, quand même.
Bien vu. Qu'est-ce que Béatrice Dahl qui aurait-elle adoré épouser?
Jimi Hendrix?
Non.
Un médecin légiste?
Bah, Pasolini. Pasolini?
Non.
Quoique.
Bah, ouais, Genet, Pasolini, tous ces auteurs fous.
Alors, non, alors, c'est quelqu'un de connu. C'est quelqu'un de connu.
Mais c'est un personnage.
C'est un personnage, mais tu peux pas imaginer un dixième de seconde Béatrice Dahl avec lui.
Stéphane Bern.
C'est pas loin.
Fabrice Luchini.
Pas loin.
Ah ouais? Enfin.
Je t'ai coupé là. Hein.
Bah, Michel Drucker, comme ça elle peut associer la mort et la.
Non, mais. Donc, c'est quelqu'un qui existe.
C'est quelqu'un qui existe, ouais. C'est quelqu'un qui existe.
Tout en délicatesse.
Et je pensais que t'allais dire Kurt Cobain, c'est pour ça que
non,
je suis
non, 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 il est encore. Alors, peut-être Kurt Cobain avant, mais là maintenant c'est.
Le duc d'Orléans.
Un prince.
C'est un prince. Exactement.
Charles.
Oh, mais ça, c'est quand j'étais gamine.
Ah ouais, d'accord.
Le prince Charles.
J'étais fasciné par ce mec-là, ouais.
C'est vrai qu'à l'époque, il était beau.
En tout cas, au niveau oreille, il y a de quoi bouffer. Hein.
Là, tu fais apéro repas.
Non.
Vous étiez amoureuse de lui?
Ouais, ouais.
Mais amoureuse parce qu'il était prince?
Certainement, ouais.
Il y a le côté trop classe de se balader dans un carrosse avec des chevaux.
Ça me faisait rêver comme plein de gamines, j'imagine, quoi. Et plein de gens disent qu'il est pas beau, mais... j'ai pas le culte, il n'y a pas que les mecs beaux qui sont intéressants.
Non, vous dites qu'il est touchant.
Moi, il me plaisait beaucoup. Voilà. Et quitte à craquer sur un prince, la couronne d'Angleterre, c'était quand même bien.
Non, mais il y a le prince Albert aussi. Il y en a des princes.
J'ai dit le prince Charles.
Ok, d'accord.
C'est pas très chic,
pas moyen de négocier.
Alors, parlons de cette lecture. C'est à partir de ce 4 juillet, c'est à la semaine prochaine, que vous allez présenter Pasolini à la Gaîté Lyrique. Spectacle que vous avez déjà interprété avec Virginie Despentes.
Et les Zéros,
ouais. Qui est le groupe qui vous accompagne, qui aide à cette espèce de tension, d'énergie, il y a un crescendo qui vous accompagne. Au début, on a l'impression que c'est simplement une nappe qui est là pour soutenir le propos, mais ensuite, ça va vraiment devenir un troisième personnage.
Ouais.
D'abord, parlons du fond avant de parler de la forme. Les textes choisis, comment ça s'est fait?
Les textes, Virginie et moi, et les garçons, si on est les plus grands admirateurs de Pasolini. Donc, moi, ça fait... j'ai découvert... Le premier Pasolini que j'ai découvert, c'était... J'ai 16 ans et c'est Salaud.
Et 120 journées de Sodome.
Ouais, et en plus, commencer par celui-là, quoi. Et je crois que j'ai vu tout ce qu'il a fait, j'ai vu tout ce qu'il a écrit.
Béatrice, comment vous expliqueriez à un enfant de 10 ans qui est Pasolini? Quelqu'un, il ne l'a jamais lu, il ne sait absolument pas où ça se situe, il ne sait absolument pas politiquement ce que ça représente. Qu'est-ce que vous dites à un enfant?
Ben que c'est l'intellect fait homme, c'est au-dessus de lui il y a Jupiter et le Soleil, donc c'est toujours intéressant, même s'il a 10 ans, de lui en parler, de lui expliquer, bien sûr.
Ouais, mais c'est pour ça l'exercice, j'étais en train de me demander comment expliquer à quelqu'un...
C'est Nagui ne sait pas qui est Pasolini, il essaie de vous demander discrètement.
J'ai vu le spectacle.
Non, mais on peut expliquer que c'est un poète italien qui...
Engagé politiquement. Ouais. Pour moi, les plus grands films, par exemple Salo, qui est difficile à voir. Je pense, je l'ai dit souvent, c'est le plus grand film antifasciste qui n'a jamais été fait, qui ne sera jamais fait. Surtout que maintenant, tout est tellement censuré et calibré. Ce film est absolument surréaliste.
Alors, je parle d'un enfant parce que toute la, entre guillemets, première partie du spectacle part de cette idée qui viendrait des Grecs, qui a touché Pasolini, qui est de dire « Tous les fils doivent payer pour les erreurs commises par leur père. »
Ben, c'est un peu vrai. C'est Sénèque, hein, parce qu'il était fan de Sénèque. Tu vois ça dans les pièces de Sénèque, dans Thieste ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est toujours un peu ça, quoi. On porte souvent responsable la descendance par rapport à un truc à laquelle ils ne sont pas coupables, quoi.
La dette, une sorte de, oui, de descendance entachée par la faute originelle, quoi, qui poursuit toute la filiation de façon.
Ce qui est étonnant derrière.
Ouais. Et l'intérêt là avec Pasolini, c'est qu'il y a un parallèle avec le monde bourgeois.
Mais à la fois, il faut aussi référence. Il n'y a pas des phrases entières, mais il y a des références. Je n'ai jamais rencontré Pasolini, mais on sent que c'était son seigneur et son maître. Que c'est comme lui avec moi, c'était Sénèque, quoi.
Un des thèmes plus mystérieux.
Ça t'intéresse pas?
Si, je croyais que t'avais fini, je voulais mettre l'extrait. Donc je vais le mettre maintenant. Allez.
Un des thèmes les plus mystérieux du théâtre tragique grec est celui de la prédestination des fils à payer les fautes des pères. Il importe peu que les fils soient bons, pieux, innocents. Si leurs pères ont péché, ils doivent être punis. C'est le cœur, un cœur démocratique qui se dit le dépositaire de cette vérité.
La question aussi est de savoir, de définir le péché. Quelle est la faute commise ? La faute d'avoir laissé passer le fascisme, la faute d'avoir été fasciste, la faute de n'avoir rien fait pour éviter le pire. C'est, ça pose toutes
là,
les questions.
Là, par contre, particulièrement, il parle de Thieste. Il fait référence à ça. Mais... c'est vrai qu'on a envie de se dire les enfants ne sont pas responsables de ce que les parents ont laissé passer. Quoi.
Surtout, Albert, ce contre quoi il s'indigne, c'est-à-dire il y a eu le fascisme, bien sûr, mais il y a eu après la démocratie chrétienne avec toutes ses compromissions, ses abominations, notamment la violence inouïe mise sur le compte de gens de gauche alors que c'était les fascistes et les services secrets italiens. Et ça, Pasolini le dénonce. Les textes, c'est bouleversant parce que les textes que vous avez choisis, ils sont de 1975, quelques mois avant l'assassinat de Pasolini. Donc ça prend une dimension quasi prophétique. Ce sont des textes testamentaires. Et je voulais dire, je voulais remercier Béatrice Dalle et Virginie Despentes parce que elles servent là un texte magnifique. Par le fond, c'est-à-dire qui bouscule toutes nos certitudes, nos préjugés. Il y a ça, ce qu'on pourrait dire à un adolescent qui voudrait lire Pasolini, parce que ce qu'il a écrit il y a 40 ans, aujourd'hui, ça résonne d'une manière incroyablement actuelle. Et puis surtout, Pasolini, c'est un ton, c'est une émotion, c'est un style absolument inimitable. C'est un très très grand écrivain, c'est un poète, bien sûr, et ça a été un pamphlétaire sur la fin de sa vie, parce que ces textes, ils paraissaient dans la presse, dans le Corriere della Sera, ils paraissaient dans quelque chose d'accessible à des milliers, des centaines de milliers de personnes.
Et même avant la fin de sa vie, et dès 68, voilà. Je veux dire, il posait la question de la révolution, de l'ordre établi, c'est une sorte de révolte de la jeunesse qu'il fustigeait, considérant que c'était une jeunesse qui était destinée à redevenir l'ordre bourgeois.
Mais d'ailleurs, il y a une phrase de Pasolini quand il parlait de mai 68 en France, qui se passait concernant les CRS, en disant si je devais choisir... ce qui se passe en France en ce moment entre la révolte étudiante et les CRS, je préfère les CRS, ce sont des vrais fils du peuple.
Ouais. Et c'est vrai que ces textes, de ce point de vue-là, ils ont beaucoup circulé, ils ont beaucoup alimenté.
C'est très perso, c'est la dernière fois qu'on va le jouer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des
ayants droit. Ça fait deux ou trois ans que
ouais, mais on l'a joué une quinzaine de fois seulement, tu vois.
Là, il y a eu une tournée, tout ça.
On n'a pas de prod, on a fait ça tous les cinq ensemble. On était à Vannes il y a deux mois et on a reçu des messages comme quoi les ayants droit de Pasolini ne voulaient plus qu'on fasse ce texte.
Carrément.
Non, parce que, alors, s'ils n'aimaient pas notre version, on pouvait la comprendre, mais parce qu'ils voulaient de l'argent, alors que nous, on le fait sans argent, on veut que les techniciens soient payés, les endroits où on joue de la même manière, mais nous, on n'a pas du tout gagné d'argent, on a juste fait par amour de ce texte. Donc
c'est pas sûr que Pasolini
va aimer ça.
Il doit se retourner dans sa tombe.
C'est l'inverse du discours qu'a eu cet homme toute sa vie, quoi.
C'est fou.
Parce que il y a pas tant que ça non plus.
C'est l'échec de sa transmission aussi, de son éducation, hein, si ses enfants font ça.
Enfin, c'est l'échec de fils de pute qui l'entoure et qui va récupérer le truc, tu vois. Parce que vraiment.
C'est fou. Non, c'est incroyable.
C'est le père qui paye pour ses enfants.
C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est le père qui paye pour ses enfants. C'est fou. Tu parlais du choix des textes, Albert. D'ailleurs, j'en ai vu deux. Enfin, il y a deux thèmes abordés. Est-ce qu'il y a plus de mélanges de coupes auxquels vous avez procédé avec Virginie Despentes? Est-ce qu'il y a des coupes de textes? Est-ce que vous avez reconstruit
les textes? Oui, un peu, parce
textes?
Que... Enfin, c'est surtout Virginie, d'ailleurs. Ça commence par beaucoup de textes politiques, mais des fois, c'est difficile. C'est un spectacle, il y a de la musique... Il fallait aussi qu'il y ait des choses pas divertissantes, mais
poétique.
En tout cas poétiques, ouais, exactement. Que ce soit pas juste un texte politique, parce que ça aurait pu être assez ennuyeux, c'est quand même un spectacle.
Et en même temps, c'est la sensation qu'on a, c'est que vous nous crachez au visage les choses, et ça, c'est hyper puissant. C'est-à-dire que c'est cette langue, on parlait
au
des
début,
mots et de la langue.
Au début, après, oui, on est dans
mais
c'est,
ça. Mais ouais. Ça nous met tout de suite dans une forme de. On est appelé à se saisir, on est appelé à être là, à être
réveillé
avec vous. C'est une forme d'indignation consciente et volontaire, quoi.
Et puis, le théâtre ou le cinéma, ça devrait toujours être ça. Je ne critique absolument pas le cinéma ou le théâtre distraction. Il y a des gens qui s'appelaient, je suis qui pour critiquer ça. Mais moi, ce n'est pas du tout ma came, quoi. Moi, j'ai envie d'entendre, d'aller voir des gens qui vont me faire réfléchir et qui vont m'apprendre des choses et m'éveiller l'esprit.
Ça sera donc le 4 juillet, la lecture musicale Pasolini à la Gaîté Lyrique pour la dernière fois.
Ouais.
En ouverture du Festival des Cultures Queer, Loud and Proud, dont France Inter est partenaire, et c'est un succès annoncé par Albert.
Mon cher Nanguet, quand une œuvre est servie avec intelligence, finesse et passion, quand elle est ressentie et éprouvée dans le cœur, le corps et l'esprit de celles qui la transmettent, le succès vient de surcroît comme une grâce. C'est ce qui advient avec ces textes de Pasolini, lus par Béatrice Dahl. Coucou Béatrice, t'es toujours là, tu as monté le son. Et Virginie Despentes, coucou Virginie, qui sûrement nous écoute si elle s'est trompée de station. Pour ma part, comme Béatrice, la découverte de Pasolini, de ses films, de ses écrits, me bouleversa et me fit réfléchir sur le consumérisme, le génocide culturel qui en découle, la servitude volontaire, le sexe supposé libéré. Mais dans le stimulant petit traité pédagogique qui précède les ardentes et visionnaires lettres luthériennes, j'ai surtout été secoué par ce que Pasolini dit de la jeunesse italienne. Oui. Les jeunes font tout ce qu'ils peuvent pour apparaître laids. Ils s'arrangent d'une manière horrible. Ils ont honte de leurs cheveux bouclés, honte de l'état rose et brun de leurs joues, de la lumière de leurs yeux. Ils ont honte de la beauté de leur corps. Eh bien, c'est tout le contraire de mes jeunes en recherche que j'accueille dans ma camionnette. Sachez enfin, chère Béatrice, que vers 11h, quand JNB, notre rédac chef, a annoncé à Nanguet que vous étiez notre invité, tout en lui tendant les textes de Pasolini, eh bien, Nanguet, après avoir corné, froissé le livre, comme il le fait d'habitude, pour faire croire qu'il l'a lu, ouvrant le bouquin au hasard, est tombé sur ces lignes surlignées par JNB, page 201. Comment éliminer la criminalité ? 1. Abolir immédiatement l'école secondaire obligatoire. 2. Abolir immédiatement la télévision. Et Nanguet, tout en enfonçant l'ouvrage dans la gorge de JNB, de lui crier « Abolir l'école secondaire, ok, de toute façon, j'y suis jamais allé. Mais abolir la télé, ah là, c'est faire insulte à l'animateur préféré des Français. Après Stéphane Plaza et Michel Cimet,
c'est ça.
Aïe !» Voilà, chère Béatrice Dahl, comment se prépare la bande originale dans la frime, les faux-semblants, le narcissisme éhonté, et toujours, et encore, et toujours la violence. Bonne émission.
Merci, Albert. La troisième édition de ce festival Loud and Proud se tiendra donc du 4 au 7 juillet avec Pasolini en ouverture le 4 juillet à la Gaîté Lyrique, au programme 4 jours de fête pour présenter et rendre visibles des femmes, les minorités sexuelles dans la culture au travers de concerts, d'ateliers, de performances, de rencontres, de projections. Ce spectacle Pasolini a été créé en juin 2017 à la Maison de la Poésie à Paris. Et puis il y a eu quelques dates en tournée, en autoproduction comme vous l'avez expliqué. Et puis on l'apprend aujourd'hui d'une manière assez violente, je trouve ça, je suis encore un peu KO debout, que les ayants droit, les descendants, la famille de Pasolini vous interdisent de continuer, pas parce qu'artistiquement ils ne sont pas d'accord,
oui,
mais parce que
ça leur entendre.
Voilà, mais parce que ça rapporte pas un centime.
Parce que ça leur... Voilà, c'est ça.
C'est fou.
Et si on leur donnait de l'argent, on pouvait continuer...
Alors que c'est un texte tellement militant, on l'a pas dit, Pasolini était homosexuel. Être homosexuel dans l'Italie de cette époque-là, aussi tenir les propos qu'il tenait, c'était une position difficile à tenir. On a parlé de les conditions de sa mort, son assassinat, ce corps retrouvé. Alors il avait critiqué les services secrets, il avait mis en cause beaucoup de gens dans la société italienne, donc il dérangeait visiblement. Mais dans un festival militant comme celui-ci, c'est vrai que ça c'est fou de se dire que c'est la dernière fois.
Ben, on était vraiment super touchés, peut-être moi encore plus. Je vis avec lui constamment, quoi. Et j'étais si triste pour une raison comme celle-là, quoi. Ça m'a vraiment émue et blessée.
Donc il faut en profiter de ce 4 juillet comme d'une fête, comme d'un final et comme d'un bouquet.
Un feu d'artifice.
C'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique.
Voici Marina Rollman. Mais oui,
alors
qu'est-ce que tu crois? T'es déjà en vacances?
Bonjour les amis. Non, je suis là, Alors l'autre jour, j'ai dîné dans un restaurant chinois et à la fin, on m'a donné un fortune cookie. Vous voyez ce que c'est? C'est des petits biscuits qui contiennent une petite bandelette de papier sur laquelle vous pouvez lire un tout petit oracle sur votre vie. Et le mien, c'était « C'est les choses qu'on n'a pas faites qui nous hantent ». Et je me suis dit, c'est cool, c'est bien, c'est pas du tout une réflexion de tueur en série. C'est les choses qu'on n'a pas faites qui nous hantent, mais ça va pas. Ça veut dire quoi? Dès que tu veux faire un truc, faut y aller. Tu vois une vieille dans la rue avec un sac que t'aimes bien, hop, high kick, coup de boule, après t'es chez les flics, t'es là, ah bah sinon j'allais être hanté. Ah bah vous pouvez y aller, alors tout va bien. Il y a des trucs qui me hanteraient vachement moins si je les avais pas fait. Et je pense que ce genre de réflexion, ça fait partie de tout un environnement culturel, la société des loisirs, le développement personnel, etc. Où en fait, ça fait 60 ans qu'on nous gave avec l'idée qu'il faut surtout être décomplexé, tout le temps. Moi, je sais, j'ai été élevée à travers la télévision, les séries des années 80-90, où à chaque fin d'épisode, la conclusion, c'était grosso modo, faut que tu t'acceptes comme tu es, il faut t'aimer, faut que t'aies confiance en toi. Et je pense que ça a donné naissance au pire trou duc de l'histoire. Parce que c'est super la confiance en soi, le problème c'est qu'il y a plein de gens qui devraient pas l'entendre, qui l'entendent aussi, tu vois. Aujourd'hui, tu peux tranquillement te balader sur un marché, tu sais, en été, où on vend des fringues aussi, et voir des t-shirts genre, j'aime les nibards et je renifle mes paix. Mais tu te dis, mais j'aurais préféré que tu sois hanté, vraiment. Ça a du bon, les regrets, non, la honte un peu, non? On promeut avec fierté les pires côtés de nous-mêmes. Il y a quelques mois, j'étais assise à côté d'une nana dans le métro, elle avait son téléphone sur les genoux et sur la coque du téléphone, c'était marqué, je suis une princesse et je t'emmerde. Je savais même pas qu'on se tutoyait, qu'est-ce que ça veut dire, enfin, Alors, bien sûr, c'est important de s'accepter comme on est, bien sûr que c'est important de pas être tout lisse, d'exprimer des avis divergents, mais là, peut-être tout le monde a trop confiance en soi. Je sais pas, les nazis par exemple. Bon, pendant longtemps, ça a été des gens un petit peu complexés. Était-ce un mal? Je ne suis pas sûre. Parce que là, il y a quand même vachement de nazis en ce moment, non? J'ai l'impression. Assez décomplexés, ça fait quelques années. Ils ont quand même un grand moment de décomplexion, les nazis. Tu sais, comme quand Jennifer Lopez, elle est arrivée dans le monde culturel, ça a libéré plein de femmes sur leurs cuisses, leurs fesses, c'était cool. J'ai l'impression que les nazis, ils ont un peu eu leur Jennifer Lopez récemment. T'as l'impression, les nazis, depuis quelques années, ils sont là. J'en ai marre des dictats des magazines. Ok, je suis nazi et c'est à prendre ou à laisser. Voilà, je suis comme ça. Et en même temps, je les comprends parce que si à longueur de journée, on lit des trucs genre, c'est les choses qu'on n'a pas faites qui nous hantent, sois toi-même, tu t'en fous de ce que pensent les gens, bah tu le fais. Mais moi-même, si je me fous de ce que les gens pensent, on glisse très vite. Les attributs de la civilisation passent à la trappe. Ça commence par les douches et les impôts, puis très vite le racisme, le travail des enfants, etc. Sois toi-même, mais moi-même, c'est une poufiasse. Il faut censurer moi-même. Moi-même, elle serait jamais invitée au crémaillère. Jamais moi-même, elle serait là, non, attends, je peux pas te laisser dire ça, Anso, c'est pas cuit, c'est juste saisi, c'est très bon. Non, moi-même, elle serait là, non seulement il est dégueulasse ton cake, Cécile, mais j'aime pas ta gueule, on est amis uniquement parce que t'as un jardin, ok. Je pense vraiment, ça ferait du bien à personne qu'on soit tous nous-mêmes. C'est très bien qu'on se juge, c'est ce qui fait qu'on est présentable, qu'on se marche pas les uns sur les autres, tu vois. Je remplacerai donc comme credo de l'été, c'est les choses qu'on n'a pas faites qui nous hantent, par le conseil de mon amie Flavia, qui dit toujours, tout ce qui peut être fait n'est pas nécessairement à faire.
Merci, Marie-Laure.
La bande originale.
Alors, on a parlé des textes, on a parlé du sujet, du fond Pasolini. Parlons maintenant de la mise en forme décidée par Virginie Despentes et Zéro. Ce groupe, ils sont trois sur scène à vous accompagner. Batterie, clavier et guitare pour être plus rapide, parce que c'est vrai que chacun après change d'instrument et joue un peu de tout. La présence de la musique et surtout la direction musicale. Est-ce que là, vous vous en mêlez? Est-ce que d'un coup, vous-même, vous savez jouer d'un instrument?
Non.
Vous parlez musique?
Ouais. Mais les garçons, ils ont créé cette musique-là par rapport à ces textes. On a passé une semaine tous ensemble.
Sur le ressenti, donc. Ils lisent le texte et voient ce que ça évoque comme vibration.
C'est ça, et on était vraiment contents du résultat. S'il y avait des choses qu'on n'avait pas senti, bien sûr, qu'on l'aurait dit. Mais moi, je sais que chaque musique a été choisie pour les textes, en tout cas que je fais personnellement, et je ne pense pas me tromper en disant que c'est pareil pour Virginie. Je trouve que c'est plus que ça nous accompagne, ça nous lance incroyablement. Quoi.
Tout à l'heure, j'ai dit que ça crée une tension. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Ouais, ou... absolument. Mais ce qui va avec le texte. Quoi.
Oui, oui.
Vous savez, il y a une lettre... À la fin du spectacle, il y a une lettre que Pasolini a écrite à un de ses amoureux qui n'était pas amoureux de lui. Et quand on sait l'amour qu'a eu Pasolini très, très peu de temps après, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer quand il dit « Maintenant, je vais prendre la voiture, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose. » On a l'impression qu'il va à l'échafaud, quoi. Et c'est...
Oui, parce qu'il le sait, quoi. Ouais. Ou une prémonition, oui.
Enfin, en tout cas, je crois surtout qu'il était malheureux parce qu'il était amoureux d'un garçon qui n'était pas du tout amoureux de lui, et en plus qui aimait les filles, donc il avait peu de chance. Et là, on sent Pasolini, la souffrance qu'on a tous connue, nous, quand on est jaloux, quand on est triste d'un homme ou d'une femme qui nous aime pas, quoi. Et d'un seul coup, on entend des réflexions de Pasolini, d'un seul coup, on est tous moins classe quand on est malheureux, quoi.
Vous avez dit tout à l'heure que la musique vous accompagnait dans votre vie, justement, la bande originale de Béatrice Dalle. On va commencer à fin des années 70, vous écoutiez. Holiday in Cambodia.
Ouais,
déjà mettre les deux mots ensemble, le Cambodge et les vacances dans le titre, on comprend la situation des Dale Kennedy. Cette musique évoque, vous l'entendez, vous revoyez à quel âge ou en faisant quoi?
J'ai 14 ans, je viens de quitter ma famille, j'arrive au bain et il y a les Dale Kennedy qui jouent. Et après, j'étais très sensible à la zik, je comprenais le titre mais rien d'autre. Et Jello Biafra est un homme politique, quoi. Je me souviens qu'il s'était présenté à la mairie de San Francisco, où avec son passé punk et destroy, on ne lui a pas donné beaucoup de crédit, alors que le mec est extrêmement brillant. Évidemment, Holiday in Cambodia, c'était dénoncer toutes les horreurs qui se passaient, quoi.
Et le tourisme, entre guillemets, des Américains qui vont faire des massacres là-bas, oui.
Et fin des années 70, Béatrice Dalle, vous dites que vous étiez à Paris pour ce concert au Bain-Douche. Moi, j'avais lu que vous allez à ce concert et que finalement, une fois le concert passé, pendant le concert, vous décidez de ne plus rentrer.
Ouais.
Donc, vous n'avez pas averti les parents, vous n'êtes pas parti
ouais.
à... C'est là, ça vous a pris, je ne rentre plus.
Ouais. Je me dis, c'est tellement bien ça.
Vous avez 14 ans, je crois ouais. que vous écrivez même une lettre pour dire genre vos parents ont déménagé et vous envoyez ça à l'école.
C'est ça.
Et comme ça, vous êtes tranquille.
Ouais.
Et on vous retient pas ?
Si, bien sûr, mais...
On s'inquiète pas pour vous ? Enfin, je veux dire, ouais. quelle est la réaction de vos parents ?
Bah déjà, il y a eu un drame, c'est que comme je voulais me vaisseau sans qu'ils s'en rendent compte, avec une copine, on a mis des trucs dans leur verre pour qu'ils s'endorment, et en fait, ils l'ont vu, et ça les aurait tués s'ils avaient bu, donc on m'a déjà foutu à l'hôpital psychiatrique pour tentative de parricide, alors que j'avais pas du tout dans l'idée de les tuer, quoi. Mais je voulais juste que je puisse prendre voler des trucs à la maison pour les vendre et qu'ils me prennent pas la tête et me barrer, quoi.
Ouais, normal, quoi.
Et, okay. mais ce pari-là de fin des années 70, dans la façon dont vous meniez votre vie, vous étiez
ouais.
toute jeune femme.
Mais moi, je suis née adulte. Hein.
Ouais.
Moi, je suis née adulte. Hein. Je me souviens pas qu'on ait pu me gérer.
Ouais.
Non. Et à la fois, je suis quelqu'un de gentil. Hein.
Ouais, mais j'en
doute
pas.
Je ne suis pas quelqu'un d'irrespectueux.
Non, mais on vous croit quand vous dites que vous n'avez pas voulu tuer vos parents.
Non, mais en tout cas, je comprends tout d'un coup le lien aussi avec Virginie Despentes.
Ah ouais.
Il y a quelque chose d'écorché, ouais, vif, de profondément doux aussi, mais de...
Absolument. Comme Asia Argento, comme ces nanas qui ont une image tellement trash. Et on est toutes passées par des choses vraiment... Ben, quand on lit les livres de Virginie, on peut se rendre compte des drames qu'elle a vécus. Mais où tout l'a grandi, tout l'a enrichi, rien ne l'a aigri, quoi.
Ouais.
Et je pense que moi aussi.
Quelle vie vous aviez à ce moment-là ? C'était quoi, les squats à Paris ?
Ouais. Parce que mes parents, déjà, ça s'était pas super bien terminé. Mais quand bien même, ils sont quand même restés
côté.
Gentils. Tu sais, comme les gens qui n'ont pas de thunes, souvent, ils sont gentils, quoi.
Mm.
Et ils laissent pas leurs enfants. Mais ils pouvaient pas, quoi. Ils pouvaient pas me payer un appart, m'aider. C'était impossible pour eux, quoi.
Donc c'était de la démerde, c'était...
Ah bah c'était les squats, c'était t'as faim, tu vas à Zéco la nuit, bouffe gratos, et voilà.
Le système D, quoi. La débrouille.
Ouais.
Avec des vols, avec des...
t'as pas de thunes, t'as 14 ans...
T'as pas le choix, quoi.
Ouais. Mmh. Ouais.
Est-ce qu'il y a des moments où vous aviez peur, vous étiez consciente peut-être de certains dangers ou d'être manipulée ou exploitée ou utilisée par des...
Non, j'étais ni manipulée ni exploitée.
Mais tu es adulte, ouais.
Ouais.
Consciente,
ouais. Ouais.
C'est fou.
Non, mais il y a forcément des mecs malsains qui fallait éviter à ce moment-là.
Mais à la fois, tu sais, tu reçois pas ce que tu mérites, mais c'est pas loin, quoi. On sait très bien que... je suis quelqu'un, en fait, qui a vachement de principes, quoi. J'ai une richesse infinie, c'est mon intégrité et ma loyauté. C'est-à-dire que on va pas s'adresser à moi pour des trucs chelous ou les mecs pour essayer de transiger un truc. Je fais pas ce genre de commerce.
Non, mais malheureusement, une fille seule à 14 ans dans des squats...
Non, jamais. Au contraire. Moi, je me souviens avoir partir avec les Bérus et les Lucrates à des concerts en Suisse. Et on habite dans un squat de skin.
Non, mais c'est pas des, les Bérus, c'est pas des méchants.
Non, 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 pas eux. Mais voilà. On habite dans un squat de skin, tu vois. Et il y avait la chambre qui me plaisait plus, c'était la chambre du chef des skins, un mec comme un squat, tu vois. Et j'ai dit que c'était ma chambre, il a fait la gueule au début. Et parce qu'il est monté sur son lit avec ses ranjos. J'ai dit, t'es en train de défoncer mon lit, vas-y, dégage, je vais te fracasser. Le mec, il est comme ça. Et ben ça a marché, il s'est barré alors qu'il pouvait me déboîter. Comme il mais mieux, je suis parti en lui piquant le peu qu'il avait.
Ouais, la force de conviction.
Vous dites
tu sais, il y a un moment quand t'as les crocs, t'as pas le choix. Quoi.
Ouais, j'entends. Mais ouais. Vous avez dit que vous avez une éducation facho.
Ouais. Ouais.
Que vous définissez pas, parce que là on en revient aussi à,
alors,
à tout
à
ce
la
que
fois,
dit Pasolini
ouais, quand dit, vous ouais. dites anti-noir, anti-PD, quand vous dites que vous avez sur le corps tatoué du Pasolini du Genet, c'était le chemin, il est loin ouais.
C'est pour ça que je me dis que c'était pas une si mauvaise éducation ça, souvent les enfants prennent le contre-pied des parents quoi. Ouais. Et moi je me disais mais je sais pas, on a dû me kidnapper, je suis tombé dans un endroit à la fois c'était des gens qui ont vraiment pas d'argent. J'ai jamais eu faim, j'ai jamais eu froid. Il y a jamais eu de violence physique à mon égard.
Donc... Vous n'avez jamais manqué de rien?
Non, non, absolument. Et sauf qu'on a vraiment rien à se dire, quoi. Et une autre chose aussi, autant ouais, ça fait gerber les racistes. Sauf que l'homme qui m'a élevé, c'est un commando fusilier marin, c'est-à-dire qu'il était à la DAS, il est très très jeune. Il est parti à l'armée et il a fait toutes les guerres. Imaginable, mais en tant que commando, donc c'est lui qui est devant, quoi. Et tu te dis, quand un mec comme ça revient, bien sûr, on se dit, tu devrais avoir le recul de te dire que c'est la guerre qui aurait, peu importe l'origine du mec. Sauf que quand j'imagine tous les gens qui sont là, nous tous, là, on vivrait un jour de guerre, un vrai. C'est des mecs tout jeunes quand ils sont partis. Le traumatisme doit être tel que c'est facile de juger, de dire, tu vois. Quand mon père, c'est un clicheton, mais quand mon père a dit, je suis parti avec 9 de mes copains de la DAS, on est revenu à 2, et tout ce que vous voyez dans les films, dans Apocalypse Now, les trucs, les couilles dans la bouche, les gens crucifiés sur les portes, c'est une réalité, quoi. Et quand c'est tes potes, il y a un moment, c'est pas, tu dois.
On revient pas indemne, ouais.
C'est bien fou, ouais.
1985, vous écoutiez.
Virgin Prince.
Des blind tests où vous pourriez gagner plus facilement que d'autres.
Moi, blind test, mais t'es où? Je suis champion du monde.
Alors, cette musique-là vous envoie quoi comme image?
Alors, c'est les punk et les Virgin Prunes, ils avaient un tel univers super triste, comme pas mal de groupes de ce moment-là, mais eux, ils étaient très troublants, quoi. Et on est devenus amis, et c'est marrant parce que le chanteur, je continue, on s'est retrouvé il y a peu de temps à le voir, et... c'était très troublant leur musique. Parce que c'est des mecs poétiques, intelligents. Mais souvent, les quepons, on les imagine sourcés des grandes gueules. Et c'est souvent l'inverse, non? Comme les Clash étaient très très brillants. Les
clairement,
Clash.
Clairement. On retrouve aussi un peu l'ambiance musicale de Zéro avec ses arrangements.
Bah, avant, c'était un groupe punk, les Zéro. Hein.
Dans cette période-là, Béatrice Dalle, 85-87, vous vous mariez avec un homme dont vous portez encore le nom.
Ouais.
En tout cas, c'est le nom qu'on vous connaît publiquement. Vous volez la robe de mariée.
Ouais, j'ai pas de thune.
Voilà. Donc, non, mais moi, j'adore à chaque fois. C'est une aventure, en fait. C'est une. Et surtout, vous avez déclaré dans L'homme de ma vie, c'est Jésus, avec Dominique Besnéard aussi. Et justement, c'est à cette période que.
Regarde, j'ai même fait tatouer le nom à Nénès aussi.
C'est vrai. Il vous découvre à la une du magazine Photo. Et c'est là que tout commence.
Je me dis, j'ai eu des hommes que j'ai aimés infiniment et que je suis souvent resté ami avec mes ex, hein, mais qui sont très importants pour moi. Mais Dominique Besnéard.
Vous allez même retourner sur scène avec, c'est pour vous dire.
Ouais. Et ça va être super émouvant.
On en parlera tout à l'heure.
D'accord.
On en parlera.
Et Dominique Besnéard, le jour où je l'ai rencontré, ma vie a basculé, quoi. Que dans le meilleur.
Parce que c'est à ce moment-là qu'il vous propose de jouer dans un film. Et ça va être l'aventure 37-2.
Ouais.
Mais alors moi, j'arrive pas à comprendre. Ouais. Il vous a découvert dans la rue ou en photo dans un magazine?
Non, sur la couverture d'un magazine.
Voilà, parce que la rumeur disait que c'était dans la rue avec...
C'est des mecs qui m'ont vu dans la rue et qui m'ont demandé si je voulais faire un casting pour ce magazine.
Photo.
Et on était quatre filles, une Lolita chic, une Lolita déroute, imagine laquelle j'ai fait. Ils ont tellement aimé la photo.
La chic, évidemment.
Ils ont tellement aimé la photo qu'ils l'ont sortie en couverture.
Et Benex, quand Besnéar vous propose, parce que Benex cherchait une inconnue pour incarner votre rôle.
Bah, je trouve qu'il avait raison, parce que si les gens se sont tant identifiés, il y a plein d'acteurs et d'actrices incroyables qui l'auraient très bien interprété. Sauf là, on ne nous connaît pas, on peut penser qu'on est vraiment Betty et Zorg, quoi.
Ouais, il fallait être un peu la girl next door, mais avec aussi son décalage, sa folie, son originalité.
Et qu'est-ce qui se passe dans une tête quand, en 85, on vole sa robe de mariée, on vient d'entendre ce que vous venez de nous raconter de votre itinéraire, et deux mois après la sortie du film, on est au Festival de Cannes.
Ouais.
On est dans un monde hyper confortable, bourgeois, clinquant, tout ce qui est aux antipodes de qui vous êtes, un monde qui est parfois superficiel, qui est pas nourri.
Pas plus qu'ailleurs.
Ouais.
Plus qu'ailleurs, on caricature vachement le showbiz, bien sûr, mais il y en a partout. Des gens superficiels.
Sauf que là, tout d'un coup, on est mis en lumière et on est une sorte d'accélérateur.
Surtout ce film-là, c'était surréaliste. Hein.
Béatrice Massa, est-ce que vous posez la question de se dire, est-ce que je joue le jeu et je rentre dans le système?
Moi, je me pose jamais ce genre de questions. Je fais juste que j'ai
pourtant
envie.
À Cannes, il faut se poser la question de savoir si on met la tenue, si on va sur le tapis
rouge.
Parce que j'en ai
même envie. Même le timing est codé. Vous êtes obligé d'arriver à telle heure et telle minute, point.
Mais la belle robe, les marches et les trucs, peut-être que c'est pas très important, mais comme toutes les filles, on aime être habillée en princesse. Sauf que je veux bien monter les marches de Cannes, être habillée en princesse, si c'est légitime, parce que j'ai un grand film qui est là. Quoi.
Et si vous avez envie de dire merde, vous direz merde.
Bah, si tu me parles mal,
Tu vois, pas de compromis avec
les gens sont respectueux avec moi, je respecte tout le monde en premier. Maintenant, si... Mais à la fois, je suis pas quelqu'un d'haineux, tu vois. Il y a des gens tellement incroyables à rencontrer.
Sincèrement, vous parlez des filles qui mettent des robes de princesse. Les garçons aussi, ils aiment bien
en
costard. Bon, moi, j'ai monté les marches. J'ai pas présenté de film, mais j'étais content aussi de faire le
Moi, j'ai pas... Oui, mais t'as un autre métier, t'es pas acteur.
Ouais, c'est vrai.
Moi, je suis actrice et j'ai pas envie de faire actrice de télé-réalité, tu vois. Kim Kardashian, le cul du vide, ça me parle pas, les gars.
Et comment vous avez été reçu, justement, à Cannes?
Alors, le premier Cannes, c'était invraisemblable. Ils avaient affrété des cars, comme il y a les grands matchs de foot de Bordeaux, de Lille, de je sais plus où, pour venir voir la créature de 37-2. Donc, il y a une émeute en bas des marches, tu vois, où je suis évacué par la police. C'était hallucinant et dans le monde entier, quoi.
Faut dire qu'on vous comparait à Brigitte Bardot. Le phénomène était c'était chaud, quoi.
J'imagine la liberté, la liberté qu'elle a eue quand elle est arrivée. Elle a mis un coup de vue à toutes les autres actrices, quoi. D'un seul coup, elle est sublimement belle, mais c'est pas que ça, Bardot. Bardot, c'était un truc où t'as l'impression que c'est un chasse sauvage. Tu vas pas la draguer, quoi.
Ouais, et puis c'était une libération sexuelle aussi qui arrivait à un moment clé, mais 37-2 aussi est arrivé est un film culte, de toute façon, je m'en veuille ou pas.
Ouais.
Alors après, quelle est la part de vous dans le personnage ou à quel point le personnage continue de résonner en vous aujourd'hui?
Bah, moi je peux offrir que ce que j'ai, quoi. C'est-à-dire que quand je m'en fous si on pense que je suis prétentieux, je sais que je les fais bien, tous bien mes rôles, parce que sur le cinéma, le théâtre, la musique, tu vois un médecin, ou tu peux pas le faire si tu donnes pas ton cœur, quoi. Maintenant, je l'offre. Si l'autre en face, il est pas foutu d'ouvrir les mains, c'est pas grave. Hein, c'est peut-être, je dis pas que c'est de sa faute, mais je peux pas mal le faire, du coup.
On va reparler de votre pièce, évidemment, et ce texte autour de Pasolini, puis surtout avec Virginie Despentes et Zéro, mais surtout on va évoquer ce festival Loud and Proud avec Anne Poli. Alors Anne Poli, déjà, dans un premier temps...
Bonjour.
Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Premier temps de politesse. Je vais m'excuser pour le vent qui s'est passé entre vous et moi, je tiens à le dire. C'est-à-dire que tout à l'heure, elle était à côté d'une porte, et je tends la main pour mettre pour prendre la poignée de la porte, mais comme elle est à côté, elle pense que je vais lui dire bonjour, donc elle me tend la main, mais j'ai déjà la poignée sur la porte, et donc, et au moment où j'enlève la poignée pour lui retendre la main, elle rebaisse sa main en disant, donc voilà, le vent étant
pas de problème.
Rafraîchissant dans cette période de canicule.
C'était hyper mal parti quand même.
Les yeux dans les yeux, pardon pour cette erreur de gestes et de manipulations. Anne, vous êtes co-commissaire du festival Loud and Proud, donc journaliste également, et engagée dans les causes militantes depuis de nombreuses années. Vous co-dirigez la revue Terrain Vague. On a utilisé le mot queer tout à l'heure. Si on devait le traduire, on serait quoi? Sur le bizarre, sur le étrange?
Oui, alors c'est queer, c'est une insulte au départ qui stigmatisait les personnes, les PD, les gouines, les tapettes. Tout ce qui était chelou, tordu, tout ce qui sortait de la marge en fait.
Ouais.
Un peu fric.
Tout ce qui sortait de la norme.
De la norme hétérosexuelle, morale, et voilà, c'est ça. Bourgeoise, normée.
Religieuse,
et donc ça c'est une insulte qui a été reprise après dans les années 90 par des militants pour en faire un symbole de fierté et de
Loud and Proud.
Voilà, et pour pouvoir brandir cette insulte avec fierté, la retourner pour la vider de son. De son sens.
Donc, péjoratif.
Ah, se réapproprier le langage, c'est le début du combat, en fait.
Voilà, c'est ça.
Pas laisser les armes aux autres à travers les mots, c'est reprendre ses droits sur le vocabulaire et militer.
Voilà, c'est ça. C'est retourner l'insulte, en fait.
Ça vient d'Angleterre ou des États-Unis? C'est le côté punk, justement, ou plutôt les Américains qui ont.
Non, je pense que c'est plutôt les Américains. Je sais pas dire quoi de plus sur le.
Non, très bien. Mais alors, donc, il y a une culture.
Oui, il y a une culture.
Comment la définir?
Alors, on la définirait.
Parce que, de dire culture queer, c'est pas recréer à nouveau une espèce de case dans laquelle on enfermerait justement une culture?
Eh ben, justement pas, parce que c'est important justement c'est une culture qui a souvent été invisibilisée. C'est une culture beaucoup du secret. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a eu le code Haynes qui a beaucoup interdit tout ce qui parlait d'homosexualité à l'écran.
Enfin, interdit, puni, châtié, coupé, censuré. Enfin, ça allait loin, quoi. Ouais.
Voilà. Et donc, c'est beaucoup une culture du secret et de l'invisible et du sous-texte. Et c'est aussi une culture de l'exagération à un autre endroit. Mais à force d'être dans le sous-entendu et dans le sous-texte, finalement, on finit par devenir invisible. Et c'est cette invisibilité-là qui rend les discriminations possibles. C'est parce que les gens n'existent pas, parce qu'on ne les voit pas, qu'ils deviennent des impensés et que c'est comme ça qu'ils sont oppressés, discriminés.
Alors, les artistes cultes de cette culture queer, les référents sont...
Je sais pas, Freddie Mercury qui est sorti du placard bien après, Elton John, voilà. Pour les grandes figures, on a aussi Divine, John Waters, toute la culture drag aussi qui est dans l'exagération, qui a repris justement. Mais c'est jouer avec les stéréotypes.
Pardon, quand vous dites Freddie Mercury qui est sorti tard, c'est-à-dire qu'il y a le coming out aussi qui va avec. Il y a ceux qui revendiquent cette culture. Il faut un outing pour rentrer dans la culture queer.
En fait, le secret de toutes les luttes, c'est la visibilité.
Non, mais si vous dites David Bowie fait partie de... D'abord, est-ce que forcément les artistes qui font partie de la culture queer doivent être genrés dans leur goût sexuel? Ou est-ce que l'on peut faire partie de cette culture sans forcément dire de quel goût sexuel on vit?
Il y a des icônes et des représentants.
C'est ça.
C'est pas... Dalida est une icône queer, je crois.
Oui, mais en fait... Il s'agit pas de raconter ce qu'on fait dans son lit tellement, enfin,
c'est
le privé et politique, mais
voilà, ouais, c'est ça,
mais en réalité, cette discrimination liée aux orientations de
l'artiste
sexuelle,
ouais.
En fait, s'articule avec plein d'autres discriminations. Et c'est pas tellement le fait de vous coucher bien avec qui vous voulez, c'est pas la question.
Ah, ça, j'ai pas, je peux vous le dire, ça.
Et c'est gentil.
Enfin,
et je vous remercie enfin de m'autoriser à le faire. Merci.
Franchement, ça va bien tard.
La question, c'est que ça s'articule avec plein d'autres choses et que.
Apparemment, vous avez vu des photos.
Comment?
Non, mais allez au bout de votre idée.
Et c'est pas tel. Enfin.
Non, mais comprenez la question, pardon. Je me suis mal exprimé.
Souvent.
Oui, souvent. Le public qui se reconnaît ou qui admire un artiste, que ce soit un peintre, un auteur, un musicien, un acteur, peu importe, qui l'admire, et vous le mettez dans une culture queer parce que justement, il incarne, il évoque, il libère la pensée. Et l'ouverture d'esprit, ça ne met pas forcément cet artiste-là dans une position justement d'amant ou d'amoureuse sexuellement orientée.
Non, c'est pas limité à l'orientation sexuelle.
Voilà,
c'est la discrimination en général de la société à l'égard des minorités de genre et de sexe.
Parce que dans les exemples que vous m'avez donnés justement sur la culture queer, vous citiez soit des artistes clairement homosexuels, soit ceux qui, et vous l'avez dit, qui ont attendu de faire des coming out pour entrer dans la culture queer. Or, si moi je rêverais d'être dans la culture queer et ça regarde personne de savoir ce que je fais de ma vie privée.
Surtout dégueulasse.
Ça, c'est pas possible. Là, de vivre votre tête. Ça, je vois que c'est pas possible.
Mais si, ça l'est.
Je suis exclu.
Non, toi, oui, vous êtes hétérosexuel, donc vous avez pas vécu la situation minoritaire de l'homosexualité, par exemple, j'imagine.
Non, mais ça peut être un engagement. On peut, par exemple, être hyper militant. On peut être.
Alors, comment vous expliquez Dalida, justement, qui.
Alors, Dalida, c'est autre chose. Les icônes queer, c'est quelque chose de tout à fait différent. Elles sont souvent devenues des icônes queer. Je pense à Gloria Gaynor, notamment, ou Dalida, qui deviennent des icônes parce que pour leurs textes, leurs chansons et leurs. Le récit de leur difficulté à devenir enfin elles-mêmes et à sortir d'un placard ou à sortir des griffes d'un amant maltraitant ou à
il y a un parallèle dans la difficulté
d'être arrivée à être elle-même finalement et c'est pour ça.
Et ça va avec un mal-être aussi. Enfin, je pense à Mylène Farmer et avec non là j'exagère.
Non vous pouvez citer Mylène Farmer.
Oui où il y a ce côté justement désenchanté une génération qui est dans le mal-être, qui est dans l'envie de mourir ou dans le suicide ou dans
une quête de soi.
Voilà.
Oui alors le
c'est gênant.
Non, c'est pas ça. C'est que justement le l'objet de ce festival c'est justement de sortir de cet environnement, en tout cas de ce paradigme de la victime et du mal-être, et voilà, c'est au contraire affirmer le contraire, être fier de ce qu'on est, et puis on invite aussi tous ces artistes pour qu'ils puissent être des modèles pour des jeunes gens justement, par exemple, qui n'auraient pas le courage de s'assumer ou qui se sentiraient encore mal à l'aise par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on programme ces artistes.
Alors parlons de la programmation.
Parlons de la naissance de ce festival. Je voulais
je vous en prie.
Dire pourquoi ce festival était né. Il est né en réaction au débat, je mets entre guillemets, sur le mariage pour tous en 2013, où on a été tous, autant qu'on était, en tout cas les gens minoritaires, les bras nous en tombaient en fait. C'est-à-dire que tous les matins, on avait des spécialistes qui nous expliquaient qu'on était des pédophiles, des zoophiles, qu'on ne saurait pas élever des enfants.
Où ça allait s'arrêter, car des animaux.
Voilà. Enfin, pardon. Il y a des hétérosexuels qui avaient aussi les bras qui tombaient dans ce débat.
Voilà, mais enfin, en tout cas, je sais pas, mais il y a eu.
Bah si, la connerie choque tout le monde.
Oui, voilà, mais il y a eu quand même une complicité terrible. C'est-à-dire que, imaginez, vous allumez le poste et c'est un des torrents de boue qui vous arrive à la figure. Et beaucoup d'imprécisions, et beaucoup d'insultes, et d'incultures, et de méconnaissances. Et vraiment, on était très choqués par ça. Donc ce festival est sorti de là. C'est-à-dire répondre à l'inculture et à l'insulte. Avec de la culture et de la poésie. Voilà. Donc c'était ça l'idée de ce
belle
festival.
Belle réponse, ouais. Belle manière de le faire.
Puis pour parler de l'égalité, il faudra peut-être rappeler que gay, ça vient d'un acronyme, good as you.
Ah bon.
Ça cherche pas simplement à être. Non, mais c'est important de le signaler.
Ouais, c'est vrai. Absolument, ouais. Vous saviez que vous alliez avoir la dernière représentation possible de Pasolini?
Alors non, on en est très touchés. Pasolini, ça nous touche beaucoup. Ça nous touche que ce soit Béatrice, Zéro et. Et Virginie Despentes, parce que c'est pour nous des modèles
des icônes,
de liberté et de justement de personnes qui s'arrangent pas des normes jamais. Voilà.
Merci
pour nous, c'était intéressant.
Merci beaucoup Anne d'être venue à ce micro. Je rappelle cette troisième édition Festival des cultures queer, donc du 4 au 7 juillet à la Gaîté Lyrique. L'endroit était parfait avec des concerts, des clubs, le ball voguing, c'est quoi?
Le voguing.
Alors c'est le voguing, les personnes queer racisées qui se sont constituées en house, qui font un contest de danse en fait, par house.
Très bien. Projection, performance, conférence et rencontre.
Voilà, il y a des choses intéressantes dans les projections, des films.
Beaucoup de musique et voilà, de spectacle, mais il y a plein d'autres choses.
Il y a une programmation associée avec beaucoup de films très intéressants que je vous conseille d'aller voir. Et des conférences aussi sur notamment les queerlands, ces personnes queer qui sont parties reprendre des territoires en ruralité, ça c'est intéressant.
Merci Anne-Pauline. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Les goélands à Paris posent un problème, il y a des goélands.
Mais oui, déjà, que font les goélands à Paris? Ce sont des oiseaux étrangers à la région et on ne peut pas accueillir toute la misère ornithologique du monde. En plus, ils attaquent, figurez-vous, les drones de la préfecture de police à Paris.
Hein, bon,
les types sont tranquillement en train de nous filmer et là, paf, le goéland. Ces oiseaux luttent pour nos libertés individuelles.
On en reparle après les infos de midi. La bande originale avec Léa Cadeau, Boudel Guy.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Marina Rollman.
Bonjour.
Bon, Tony Bessureau.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Et notre invité Béatrice Dalle.
Bravo, bravo.
Pendant les infos, je vous entendais parler, Béatrice Dalle, de légitimité. Vous êtes posé la question, justement, avec Virginie Despentes, de cette légitimité à se servir des textes de Pasolini.
C'est vrai ça. Ouais, absolument.
Approchez-vous un tout petit peu du micro, si on aura du mal à vous entendre.
Ouais, comme ça.
Ouais, merci.
Comme je te dis, même un truc aussi, tu vois, pas important que de monter les marches de Cannes, mais il faut que ce soit légitime.
En phase avec quoi? Alors, avec ce que vous portez, avec justement les valeurs que vous défendez, les fêlures, le vécu
aussi.
Tout ça, aussi,
ouais. Tout ça, et puis... quand je fais King Kong Theory, l'autre fois, j'entendais une version...
De Virginie Despentes.
De Virginie Despentes. Elle m'a vu le faire pour la première fois. On faisait un truc à Avignon. Et c'est la première fois... Elle a entendu 1000 fois son texte. Et elle me dit, c'est la première fois que je le trouve si beau, le texte. Et je dis, c'est normal parce que il y a une phrase à un moment où je dis, c'est quand même pas si mal d'être Virginie Despentes. Je me trouve légitime parce que c'est ma meilleure amie depuis 15 ans. Qu'on passe notre vie ensemble. Que... et si on passe notre vie ensemble, c'est qu'on a tellement de choses en commun, et j'ai tellement de respect pour elle, quoi. Et puis alors, aux autres qui interprètent King Kong Theory, je dis, rêvez pas les gars, elle va pas vous adopter, donc c'est moi qui le fais mieux.
En plus elle est intransigeante aussi dans la manière dont son œuvre est traitée. Là il y a eu une récente sortie sur Vernon Subutex, la série
sans concession,
elle a pas aimé.
Non.
Elle le dit,
elle a raison de le dire. Si ça lui plaît pas,
d'autant plus qu'elle n'a pas été vraiment associée au projet sur la durée, donc
c'est difficile de s'en... qui n'est pas du tout le livre, quoi. Ouais. Alors qu'elle elle adore Duris, mais...
Non, mais c'est pas, ça n'a rien à voir, c'est pas un truc humain, c'est juste ce qu'elle a vu,
le rendu,
justement ça, l'été.
ils ont tellement, je pense, voulu édulcorer et rendre pour une télévision...
Pour que ça puisse passer à la télé. Hein, c'est pour que ça puisse passer à la télé,
j'imagine.
C'est ça.
Et puis c'est chiant de toujours tirer les gens vers le bas, quoi, tu vois.
Dans le spectacle Pasolini, vous êtes ensemble sur scène, et non seulement ensemble sur scène, mais en même temps, par moments vous dites les mêmes mots, et par moments il y a justement, vous jouez avec une espèce de rumeur pendant que l'autre parle, s'il y avait
comme un canon.
Exactement. Non, mais c'est quoi, c'est des heures de répétition pour être bien calé.
Pas beaucoup, on a répété 4-5 jours, tu vois, mais...
Vous êtes en osmose en tout cas.
Pardon.
Vous êtes en osmose.
Oui, ben on est tellement en osmose dans la vie que forcément ça allait se ressentir, quoi. Et il y a un truc que j'avais lu concernant, que j'avais trouvé très beau. Tu sais, quand elle bouge pas beaucoup, elle fait juste toujours ça avec sa main. Quand elle parle, on dirait un métronome.
Elle bat exactement. Elle bat
le rythme.
Il y a des moments où elle a envie de danser, où elle se met sur la pointe des pieds aussi.
Mais tu vois, elle est. Et j'avais vu des critiques qui disaient que Virginie avait l'intellect d'un Pasolini, que c'était merveilleux qu'elle fasse ça. Et me concernant en disant, elle a la sensualité des gamins des rues que Pasolini mettant. Parce qu'on le voit même quand on le fait, c'est comme si c'était elle la narratrice. Et moi, d'un seul coup, moi, je peux pas m'empêcher de pleurer. Et pas, c'est pas un truc calculé. C'est d'un seul coup, c'est ma vie à moi qu'on est en train de raconter, quoi.
Et puis, vous parliez tout à l'heure de Thieste, de Sénèque. Ouais. On sent cette dimension aussi théâtre antique. C'est qu'on a la sensation que tout d'un coup, Virginie Despentes est le coryphée, c'est le chef du chœur, avec cette musique derrière. Ouais. Même dans votre posture, les deux pieds plantés face au public, jambes un peu écartées, cette façon de scander.
C'est ce que je dis, star du rock aussi.
Ouais. On est des grands prêteurs du chaos, on se la joue à main.
Mais c'est vrai, il y a quelque chose d'un peu mystique, même parfois. Avec cette musique, c'est-à-dire qu'on est dans un truc au-delà du spirituel. Enfin, c'est une vraie performance au-delà
d'une
lecture.
Ouais. Et puis les textes sont tellement beaux. Du coup, forcément, les gens dessus, on a joué. Je crois que c'était à Bourges, dans une espèce d'immense squat où c'est pas une salle de théâtre, donc il y a pas de fauteuil. T'as un bar qui fait 100 mètres et t'as que des mecs debout et des quepons. Et tu te dis, putain, les mecs, ils vont en avoir rien à foutre, ils vont tous être bourrés. Personne ne va écouter. T'as vu les mecs scotchés. Ou d'un seul coup.
Parce que ça interpelle aussi la manière dont
vous faites, bien sûr. Et c'est pour ça que, par exemple, quand j'accepte toujours des projets avec David Bobet, c'est parce que le théâtre subventionné, il n'est pas cher. Il n'y a pas des contraintes, tu vois, comme tu peux voir sur les grands boulevards, où d'un seul coup. tu me verras. Moi, il y a une pièce qui s'appelle Pouic Pouic. Ça, je trouve ça punk, hein, les gars.
Ah, ouais. Alors que dans Lucrèce Borgia, vous étiez dingue.
Ouais, c'était ouf. C'était ouais. Se mettait en scène.
Ouais, ouais, David ouais. Bober.
Et puis, j'ai pas envie de jouer Lucrèce Borgia ou je vais être Lucrèce Borgia sur la scène où nique ta mère, j'en ai rien à foutre.
On reparle de ouais. Pasolini, Virginie Despentes, Béatrice Dalle et Zéro dans quelques instants. Mais d'abord, c'est un que pour un sa manière. Je t'en dis pas sûr. On passe du no futur au fait qu'on soit déjà dans le futur.
Oui, alors qu'on a plutôt l'impression d'être dans le passé, hein, on bouffe des graines que personne ne cuisinait plus depuis les Mayas. T'allumes la télé, Jean-Pierre Cabache interview Raffarin. Entre deux émissions, moi j'ai Albert Algout qui me raconte qui à Canal en 93 ne prenait pas de coke, parce que ça va plus vite que de raconter qui en prenait. On se dit rien n'a bougé, mais ça c'est parce que personne ne nous informe vraiment. Cinq jours que les médias sont en boucle sur la canicule. Porter une doudoune par 37 degrés est-il raisonnable, Marie-Vonne? Eh ben écoutez Ghislain, non. Hein, d'abord parce que ça vous fait le même look de con qu'en hiver, ensuite parce que vous allez crever. Hier à la télé, ce média qui a perdu 70% de son intérêt depuis que j'y suis plus, on parlait d'une pénurie d'eau à Valenciennes. Et alors, depuis quand à Valenciennes on s'intéresse à l'eau? J'y ai fait 2-3 soirées, quand j'ai demandé un verre d'eau, ça a acheté le même froid que si au forum de l'économie solidaire, Bernard Arnault s'était pointé. Et quel festival en ce moment? Agnès Buzyn, là, la ministre de la Santé, à cause de la canicule, nous a quand même conseillé de boire de l'eau et de se mettre à l'ombre. C'est bien parce qu'on n'aurait jamais pensé tout seul. Moi, avant son intervention, j'étais assis en plein cagnard, je tournais au rosé, 3 litres à l'heure, je vomissais par le nez, au-dessus de moi des vautours commençaient à décrire des cercles. Bref, le changement climatique nous ramène au Moyen-Âge. Les riches sont à la cool dans un gentil 17 degrés climatisé, tandis que les gueux sont en train de clamser dans le RER. Et vu les odeurs, clairement, ils se décomposent de leur vivant en génération Michel Houellebecq. Donc on nous parle de la canicule, c'est pratique pour certains parce que ça évite d'aborder d'autres sujets. Par exemple, tiens, les drones de la préfecture de police de Paris. Alors les drones, ce sont ces engins volant tout nul qu'on achète aux gosses et qui au bout d'un quart d'heure se prennent un platane. Le gamin pleure, on est obligé de lui dire ça va au Yémen, tu sais ce qu'ils font, les drones, ils tuent des enfants plus leurs parents. Parfois sur une famille entière, il reste qu'une tante. Tous les jours, elle doit aller à la CAF mettre à jour son dossier. 16 km avec une seule jambe. Hein, le petit dit je m'en fous. Donc là, on est en droit de le proposer à la vente sur le bon coin. Il y a des commodes qui ont été moins insolentes et dont on s'est séparé. La BRI, l'anti-gang, se sert également de drones quand il y a une prise d'otage et maintenant, en cas de manif, ils sont utilisés dans un cadre législatif aussi flou qu'une photo cadrée par un mec qui allait au quai. Depuis le ciel, on nous surveille, on nous filme sans rien nous dire, alors que moi je refuse d'être filmé du dessus. Vous avez vu mon implantation capillaire? Il va y avoir un trou. Filmé à 1 mètre du sol, je suis sexe, mais d'en haut je ressemble à un émental. Enfin, quand Castaner va avoir les images, s'il avait prévu de se caresser, c'est foutu. Ou alors c'est que c'est un fétichiste du fromage. Un jour on va le shooter en soirée en train de frotter un chabichou, ce malade. Bref, le premier prétexte à la noix, les types sortent les drones et nous surveillent, c'est Big Brother. Moi j'ai une petite nièce qui a fermé son Instagram, à la place elle se met en micro-short dans la rue et elle attend le drone pour montrer sa culotte.
Vous m'avez dit que les goélands veillaient à nos libertés individuelles.
Mais oui Nagui, parce que le Parisien a fait un article là-dessus, les goélands, ces fiers volatiles blancs qui ressemblent un peu à Amélie Nothomb si elle avait un bec, attaquent les drones de la préfecture de police. Alors les employés de la LAPP témoignent anonymement, mais ils ont plus à craindre des goélands que des gilets jaunes, parce qu'en plus jamais un gilet jaune ne va vous déféquer dessus depuis le ciel. Ou alors c'est qu'il est super grand et réellement énervé. Déjà 15 attaques de drones par des goélands ont eu lieu. Pourquoi? Ces oiseaux seraient-ils devenus des activistes de gauche? À l'instar d'Alexis Corbière, Pif ou Francis Lalanne? Non, c'est juste qu'un goéland c'est un peu con. Et ils prennent les drones, figurez-vous, pour des prédateurs. Donc ils protègent leurs œufs pour qu'un jour naissent d'autres petits goélands qui attaqueront l'hélicoptère de Yann Arthus-Bertrand qu'ils prendront pour une grosse buse à moustache. Mais ça pourrait être aussi une vengeance de leur part, parce qu'à Nice, des drones sont quand même utilisés pour asperger sur les œufs des goélands un liquide stérilisant pour éviter qu'ils se reproduisent. Il y a aussi un drone sur place à Nice qui, une fois l'heure, asperge Christian Estrosi de gel Studio Line fixant afin qu'il refasse sa coiffure. Parfois, il lui met en plus de la matière grise, laquelle rentre par l'oreille jusqu'à son cerveau, et là, Estrosi a une idée. Il ne le dit pas, bien sûr, parce que son équipe ne le reconnaîtrait pas. Donc, les goélands sont dans leur droit. Moi, je les soutiens, parce que quand j'étais jeune, jeune, en Bretagne, que je pleurais sur la plage en jouant de la harpe, en disant jamais je n'aurais niveau pour bosser avec Nagui. Il y avait toujours un goéland pour faire ouais, ouais. Et moi, j'interprétais ça comme un encouragement, alors que si ça se trouve, il me disait tu vas finir chez Hanouna, pauvre loser. Seulement d'après Le Parisien, attendez, parce que c'est pas fini cette histoire, la préfecture de police s'apprête à contre-attaquer. Ils vont lancer des drones qui émettent des cris de rapaces pour effrayer les goélands. C'est-à-dire qu'on s'installe à Paris en se disant fuck la cambrousse, moi ce que j'aime c'est la ville, nature et découverte c'est le maximum de la campagne que je peux m'imposer, et on va se retrouver à vivre entre les cris de goélands et d'aigles. Hein, à part les ornithologues à qui ça peut plaire, mais enfin c'est n'importe quoi. En plus, les cris d'aigles, ça va faire revenir tous les groupes péruviens à Pancho qui nous ont gonflés pendant des années à baver dans des flûtes de pan. Or la musique a déjà pris cher cette année. Aya Nakamura, le comeback de Maître Gims, ça va. Hein. Bon, j'ai rien contre les flics, mais il y aura toujours une place dans mon cœur pour les goélands qui m'ont tant soutenu. Donc je le dis, allez-y les gars, défoncez-les, ces drones qui nous espionnent.
Merci Tanguy Pastiaud.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et Tanguy sera le 24 août au Festival de l'Humour de Tournon-sur-Rhône.
Revenons donc à Pasolini et à justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette osmose qu'il y a entre Virginie Despentes et Béatrice Dalle qui est notre invitée.
Rome tartinée comme de la boue sur la lame, enflammée du ciel, garçon en fleurs, tout l'été à porter le même tricot bon marché. Ah, honte et splendeur, mille nuées de paix encerclent le ciel. Amour, jamais tu ne cesseras d'être amour.
Vous êtes...
Moi, c'est le moment que j'aime pas.
Pardon.
Ouais, parce que je trouve ça fait effet de style. Virginie, et aux garçons, ça leur plaît beaucoup. Donc, comme chacun donne son avis, truc. Mais moi, j'aime pas, ça fait effet de style. J'aime pas cette partie.
D'accord. Alors, écoutez, je vais quand même essayer de...
Les intellectuels italiens ont toujours été des courtisans. Ils ont toujours vécu dans le palais. Mais ils ont été également populistes, néo-réalistes et même révolutionnaires extrémistes. Ce qui avait créé chez eux l'obligation de s'occuper des gens. Maintenant, s'ils s'occupent des gens, cela se passe toujours à travers les statistiques des instituts Doxa ou Pragma.
Il dénonçait déjà, la... ouais, et ça c'est sur les intellectuels, on voit la musique extrêmement présente, il y a des sujets, Albert le disait tout à l'heure, qui sont extrêmement présents et actuels, et alors que ça a été dénoncé.
Le consumérisme, la destruction de l'environnement,
qui en découle.
Dans les années, début des années 70, que la société de consommation est le nouveau danger, le nouveau fascisme qui va causer notre perte.
Il
n'était
pas le seul à le dire, mais il l'a dit d'une façon absolument magnifique. Ouais. C'est à la fois un pamphlétaire, mais il est littéraire, donc c'est unique cette manière de protester, de se révolter, mais pas de manière, pas dans le préchi-précha, pas dans le pathos, jamais. Puis il a couru tellement de risques, quoi. Il a été d'un courage tellement admirable.
Et ce qui est bien, c'est que finalement, avec cette lecture, et là, ce qui n'aura plus lieu, c'est aussi une porte d'entrée pour aller découvrir l'auteur, parce qu'on n'a pas forcément facilement accès à Pasolini. Non. Pasolini ne se livre pas facilement non plus, il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir été guidé par quelqu'un. Comment vous l'avez découvert,
alors,
vous, Pasolini?
C'est exactement ça. Faut accepter de quelqu'un qui prenne la main. C'est comme la musique, c'est instinctif. Musique triste et triste. Mais la littérature, la peinture, il faut quand même une initiation, quoi. Et à 14 ans, évidemment que tu connais pas Pasolini. Et... je me souviens, une salle à Saint-Michel, où on est 5-6, où tous les gens sortent tellement ils sentent mal, quoi. Et c'est vrai que chaque image que tu peux voir, tu te dis, c'est pas possible d'aller plus loin. Et chaque instant, ça va plus loin. Je me souviens, il y a Claire Denis et Gaspard Noé qui avaient fait des commentaires dans les bonus, les trucs, où ils disaient, ils n'avaient pas réussi à le voir en une seule partie, quoi, tellement le film est... Et voilà, bah ouais, le fasciste, ça ressemble à ça, non?
Alors ben justement, alors, puisque vous en parlez, Daniel Morin, le spectacle donné par Béatrice Dalle, non, ce sont les lectures qui est au centre de tout ça. Les lectures, c'est aujourd'hui une forme d'art à part entière. C'est un moyen aussi de faire connaître les textes, c'est ce qu'on vient de dire. Ces lectures redonnent vie à des œuvres, touchent un grand public via la musique, via des personnalités comme Béatrice Dalle ou Virginie Despentes. Donc les lectures, on peut dire qu'une chose, c'est vive les lectures pour encourager la lecture.
Et ah aller... nom de Dieu, les là. File-moi ton dictionnaire en bronze, ton marque-page en marbre, que je les balance sur le faciès disgracieux du furet d'Alexandrie. Oh putain, si j'avais une bibliothèque, je la détruirais pour mettre le feu et vous foutre au milieu. Et là, je vous regarderais mourir, crever au milieu du brasier, monsieur Guy. Je vous regarderais me faisant griller un délicat mélange merguez, cannabis, sauce poppers. Je sais qu'on est à 24 heures de la dernière de la saison, mon petit bonhomme, mais c'est pas une raison pour essayer de battre le record du monde de banalité affligeante. Et que les lectures redonnent vie à des œuvres nini,
bah oui.
Et que ça touche un grand nombre public,
bah oui.
Nanana, et que c'est un art à part entière,
bah oui.
Nini. Je vous propose de pratiquer un autre art à part entière, un art radiophonique sous-représenté. Et là, je vois en vous le candidat parfait pour lui redonner ses lettres de noblesse. Le mime. Oui, le mime qui permettrait de rendre un hommage mérité au silence, au fermage de gueule, au bouclage de clapet sur tout le vôtre, et ainsi faire du bien à l'ensemble de l'espace francophone mondial. Et puis arrêtez de louer au micro ces lectures quand, off, vous dénigrez, que vous conspuez, que vous vomissez. Qui m'a dit que pour les comédiens, les lectures étaient surtout un sacré bon plan de feignasse pour pas apprendre des textes? Qui m'a dit en off, hein, que les lectures côté public, c'était des repères d'analphabètes incapables d'ouvrir un bouquin? Et qui m'a dit que les lectures, c'était tout juste bon à inaugurer de mauvais centres Leclerc dans de vilaines provinces à destination de populations hideuses?
Hein?
Mais c'est lui qui m'inspire. Et puis à propos de lecture, juste un petit test. Seriez-vous capable de lire ça? Attention, c'est de la littérature. On va voir, c'est un test.
C'est dingue ce que Daniel Morin est beau,
ouais.
Séduisant,
ouais.
Tambourinant, en plus d'être étincelant. Quand je l'écoute parler, je me sens idiot. Et pourtant, quand je le regarde, j'ai envie de lui. Son génie me trouble.
Ah, finalement, je me suis trompé. Vous savez lire. En même temps, c'est très beau ce qui était écrit. Il n'en est pas moins vrai qu'aujourd'hui, plus qu'hier, mais malheureusement, moins que demain, vous avez dit...
N'importe quoi.
C'est bien
merci
ça.
Daniel Morin.
La bande originale.
J'étais troublé. J'étais troublé. J'étais pas dessus. Non, tout était faux, Béatrice Dalle, évidemment. Ne vous offusquez pas des propos tenus par cet énergumène qui sera licencié dès demain soir. Puisque demain, ça sera la dernière. Béatrice, parlons un tout petit peu des projets aussi, puisque vous nous avez dit que malheureusement, c'était la dernière représentation de Pasolini le 4 juillet à la Gaîté Lyrique. Des projets, vous en avez du 3 octobre au 29 novembre, Elephant Man aux Folies Bergères. Avec Jaguar.
Jaguar Gorgon.
Eh ouais. Ça va être chaud.
La prêtresse du chaos et.
Ça va être chaud.
Jaguar. C'est pas mal.
Ouais.
C'est pas mal. La belle affiche là.
Joe Star et vous.
Ouais.
Bon, c'est plus un secret pour personne, évidemment. Vous avez été l'un comme l'autre. Enfin, chacun a compté dans la vie de l'autre et continue de compter. C'est ça qui est fort.
Ouais.
C'est que même s'il y a eu une séparation, vous êtes toujours, entre guillemets, aussi proches.
Bah, ça a été tellement passionnel entre nous que. C'est pas parce que le sentiment, voilà, on couche plus ensemble, le mec devient moins intéressant ou moins intéressante à ses yeux, quoi. Tu vois. Et moi aujourd'hui, Didier, ça fait 24 ans que je le connais, c'est pas mon ami, c'est pas un pote, c'est plus que ça. C'est toute ma famille réunie.
Et c'est pas justement troublant de se retrouver sur scène?
Très.
Pour la première fois?
Très, parce que notre version à nous, c'est pas du tout inspirée. Enfin. C'est le texte de Pomerance, mais ce n'est pas...
Mise en scène par David Bobet, dont on parlait tout à l'heure.
Avec qui j'ai fait Lucrèce Borgia. Et ça n'est pas un type handicapé physiquement, comme était John Merrick. C'est juste...
Qui a réellement existé.
Ouais. Et c'est parce qu'il est noir, parce qu'on l'a tellement mis au banc de la société. C'est aussi une ode à la tolérance, à respecter les autres, à aimer cette différence et en jouir, quoi.
Et c'est toujours autour du rejet aussi. Du regard des autres
et puis
et du jugement.
C'est ce qu'on a aussi un peu connu quand on s'est rencontrés tous les deux, quoi, tu vois. Il y a quand même l'espèce de clicheton quand t'es une meuf et que tu sors avec un black. J'ai pas besoin de préciser quel clicheton, c'est. Alors, moi, je suis blanche dans un pays de blancs, c'est vrai que c'est une souffrance qui, personnellement, j'ai pas connue, mais. D'entendre constamment quand t'es noir, quand t'es pédé, quand t'es juif, constamment, tu vois, je comprends que ce soit une vraie douleur, quoi.
C'est du 3 octobre au 29 novembre. Alors, expliquez-moi, parce que la pièce, c'est la première fois qu'elle est montée à Paris, et après, il y a une tournée.
Oui.
Et vous ne faites pas la tournée.
Si.
Ah bon, d'accord. Non, je voyais qu'il y avait plusieurs comédiens, donc c'est pas, c'est sur scène, vous êtes plusieurs. Vous n'êtes pas que tous les deux sur scène.
Je trouve Elephant Man,
vous êtes combien sur scène en tout?
Je sais pas, on commence lundi, les répètes.
D'accord, une douzaine de comédiens sur scène avec vous, et après vous faites la tournée, tous les deux. D'accord, ok.
Bah, attends,
je croyais qu'il y avait un autre casting pour la tournée.
Non, c'est pas possible, parce qu'on voit que l'attente qu'il y a aussi, parce que c'est le couple que les gens ont envie de voir, je sais même pas si c'est tellement les frontman, Et mais ça nous touche infiniment.
C'est pas la première fois qu'on vous propose de travailler ensemble.
Ouais, mais dans des trucs, tu vois, on a vécu 10 ans de passion inouïe où tout est incroyable, merveilleux ou archi difficile, mais c'est pas grave, rien n'est. Tu sais, lui et moi, on a toujours cherché que des moments d'infini, quoi, particulièrement quand t'es amoureux fou, et on pouvait pas accepter quelque chose ensemble qui pouvait être moyen. C'est pas possible.
Donc, à partir du 3 octobre jusqu'au 29 novembre, vous reviendrez au théâtre encore, décidément les planches vous plaisent, du 10 décembre au 5 janvier, sur la scène du théâtre du Rond-Point pour Warm, de Ronan Chesneau.
Et puis, il y a un super projet aussi avec Virginie Despentes et une rappeuse extraordinaire qui est Kazé.
Kazé, on nous fait un texte sur tous les... moi, comme je te disais tout à l'heure, je fais beaucoup de textes de Virginie. Kazé fait ses textes.
Ouais.
Et Virginie a traduit des textes de butch américaine et qui sont vraiment super hardcore, quoi. Mais je leur ai dit aux filles, commence à me casser les couilles, les filles, on fait que des spectacles lesbiennes, il n'y a pas un mec dans la salle. Chaque fois, je me retrouve avec des gonzesses.
On va vous emmener des mecs.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Déjà, désolé pour tous les fans cannibales de Nagui qui auraient tant aimé dévorer leur idole. Je vous préviens, il n'y a pas grand-chose à bouffer physiquement. Dommage que son ego soit pas comestible. Là, je vous assure, il y avait un banquet. Désolé pour tous nos auditeurs nazis et donc fans de Leïla qui ont été quelque peu vexés, chahutés, tambourinés par la chronique Bobo, Gaucho, Vegano, Helvète de Marina Rollman. Marina qui a donné la très désagréable impression de ne pas vous aimer, Aminazi. Ah, putain, j'ai mal à ma France. Désolé enfin pour Béatrice Dalle qui a été seulement accueillie avec de l'eau. Pour vous remercier de votre venue dans l'émission, je vous propose une aventure culinaire qui va au-delà du cannibalisme que vous avez testé. Je vous propose de goûter à l'inconnu. Avec qui sait peut-être la mort au dessert. La cantine de Radio France. Et là, je vous promets, ça va être hyper méga rock'n'roll.
Merci, Béatrice, d'être venue pour la première fois dans cette bande originale. Le 4 juillet, donc Pasolini pour la dernière fois sur scène, Virginie Despentes, Zéro et Béatrice Dalle. Et ensuite, rendez-vous à la rentrée avec Joey Starr du 3 octobre au 29 novembre pour Elephant Man. Demain, nous nous retrouverons à ce micro.
Vous venez tous, parce que moi, j'aime pas quand on parle d'un spectacle et que les gens viennent pas voir.
Ah bah...
Mais moi, je fais rentrer tout le monde, hein. C'est pas pour gagner de la thune, moi, je fais rentrer tout le monde.
Ah bah ça, les enfants de Pasolini avaient compris, que c'était pas pour les atouts. Demain, Andréa Vescon et Éric Métayer seront nos invités. Tout de suite, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée.
Oui, les amis.
Pardon pour le retard, Philippe. Bonne mission.
Mais j'étais un peu déçu. Je voulais quand même prendre le temps de vous saluer, de vous souhaiter un bon été, parce que c'est le dernier des carnets de la saison. Oh. Et puis aujourd'hui, j'étais un peu déçu, parce que je pensais que Virginie allait venir avec Béatrice. En fait, vous n'aviez que dalle.
Non, on lui a jamais fait.
Ne dites rien, Béatrice.
On l'a jamais fait, et surtout quand on veut être impertinent, faut être drôle, mec.
Mais je prends des vacances, Béatrice.
T'es déjà en vacances. Ça, c'est
demain, c'est vrai qu'il y a un jeu des 1000 francs spécial qui démarre à midi.
1000 euros.
J'ai 1000 francs. Non, j'ai 1000 francs.
Voilà. Bon, c'est pas grave. Salut les amis.
Moi aussi, j'ai besoin de vacances.
On vous embrasse.
Bisous.
Pas moins.